La Galatrice, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous écoutez l'heure de la vérité, votre très chère émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Nous bénissons le Très-Haut qui nous donne une fois de plus ce merveilleux privilège d'être à cette heure-ci autour de sa sainte parole. Oui, parce que il est écrit que ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Donc, c'est par la grâce de Dieu que toute chose est possible. Pour vous servir, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Et comme toujours, cette émission se déroule sous l'œil très très vigilant de son Excellence, Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, l'admirable conseiller, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Seigneur Jésus-Christ. Comme promis, nous allons continuer notre partage concernant les fausses doctrines et nous sommes déjà en train de parler des dîmes et des offrandes. Oui, nous sommes en train de parler des dîmes et des offrandes. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en train de parler des dîmes et des offrandes. La dernière fois déjà, je vous faisais comprendre que la dîme, c'est le 1/10 de quelque chose. Oui, la dîme, c'est le 1/10 de quelque chose. Et la dîme était une loi sociale juive. Et je vous faisais déjà observer que beaucoup ne le sachant pas, il y a au moins 3 sortes de lois dans l'Ancien Testament. Il y a les lois cérémonielles, les lois morales et les lois sociales et civiles. Dans les lois cérémonielles, il y a les sacrifices, les rituels qu'il y avait tout autour, les fêtes religieuses, il y a les lois sociales et civiles qui concernaient la nation d'Israël en tant que nation, naturellement, elle devait avoir des lois comme toutes les nations qui existent sur cette terre. C'est pour cette raison que les chrétiens ne doivent pas copier bêtement tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et il y avait également la loi morale. Et la dîme faisait partie de la loi sociale ou civile juive. Et je vous faisais également remarquer que beaucoup ne le sachant pas également, qu'il y avait au moins 3-4 sortes de dîmes. Il y avait la dîme qui revenait aux Lévites qui travaillaient exclusivement dans les choses qui concernaient le sanctuaire, le culte. Oui, il y avait une dîme qui était la dîme de la dîme qui revenait au sacrificateur ou au souverain sacrificateur. Il y avait également une dîme qui revenait à celui-là même qui donnait la dîme en Israël. Une fois par an, il devait manger cette dîme avec sa famille et se réjouir. Vous pouvez lire tout cela dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 29. Il y avait également une quatrième sorte de dîme qui était la dîme des orphelins, des veuves et les étrangers. Bon, malheureusement, lorsqu'on parle de la dîme dans beaucoup de milieux religieux, on ne fait pas allusion à toutes ces sortes de dîmes. On prend seulement Malachie chapitre 3 qui dit « Amenez les dîmes dans la maison du trésor » et on ne dit pas exactement ce que la Bible enseignait concernant la dîme. C'est ainsi que les fausses doctrines également, en général, naissent. Parfois, on va dans l'Ancien Testament, on sort certaines choses et on sort de leur contexte et on enseigne aux chrétiens. Parfois, naïvement, les chrétiens se mettent encore sous la loi, même sans le savoir. Et nous allons continuer. Nous allons également nous intéresser à la dîme d'Abraham. Oui, la dîme d'Abraham, parce que Abraham a payé la dîme dans la Bible. Et beaucoup, lorsqu'ils enseignent sur la dîme, disent qu'ils vont payer la dîme comme Abraham. Parce qu'Abraham a existé même avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 au verset 20. Mais avant de lire Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 au verset 20, une fois de plus, je vous invite à avoir un stylo et sur quoi noter tous ces versets bibliques, afin de les vérifier par la suite. Je disais tantôt qu'avant de lire là où Abraham a payé la dîme, nous allons quand même nous intéresser à certaines lois morales. Parce que quand il dit qu'il y avait plusieurs sortes de lois en Israël, qu'il y avait les lois cérémonielles, les lois morales et les lois sociales et civiles, Jésus-Christ a accompli toutes les lois cérémonielles à la croix. Le chrétien n'a plus besoin d'accomplir ces lois. Par exemple, faire des sacrifices, observer les fêtes religieuses. Jésus-Christ a accompli tout cela à la croix. Et les lois sociales et civiles concernaient uniquement la nation d'Israël. Par contre, les lois morales sont éternelles, puisque ces lois sont inscrites dans la conscience de l'homme dès sa naissance. Que l'on soit chrétien ou musulman, peu importe la religion de chaque personne sur la terre, ces lois morales sont imprimées dans sa conscience dès sa naissance, oui, de toute personne qui naît sur cette terre. Et ces lois sont éternelles. Et je vais prendre quelques exemples pour vous faire comprendre exactement ce que j'entends par lois morales qui sont éternelles. Nous sommes dans Lévitique. Par exemple, Lévitique chapitre 18, à partir du premier verset, nous pouvons lire ceci. Lévitique chapitre 18, à partir du premier verset, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point les usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Par exemple, à partir du verset 6, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Nous sommes en train de voir ces lois qui sont morales, à savoir que l'homme ou bien un enfant ne doit pas voir la nudité de ses parents, de sa mère ou de son père, ou de sa sœur ou de son frère. Ça, ce sont des lois morales. Tout le monde sait que ce n'est pas normal de coucher avec son père ou avec sa mère. On n'a pas besoin de lire la Bible pour savoir que cela n'est pas bien. On n'a pas besoin de lire la Bible pour savoir que voler, tuer n'est pas bien. Par exemple, au verset 22 de Lévitique chapitre 18, nous pouvons lire ceci. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier. Verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Bien sûr, parlant de l'homme, l'homosexualité, l'homme ne doit pas coucher avec un autre homme. Et vice versa, la femme non plus ne doit pas coucher avec une autre femme. Dieu dit clairement que c'est une abomination. Ça, ce sont des lois morales. J'ai pris ces exemples, vous pouvez lire. Et il y a beaucoup de chapitres dans la Bible qui parlent des lois morales. C'était pour vous donner déjà, avoir un peu une idée de ce que c'est que les lois morales. Et ces lois sont éternelles. Et ces lois intéressent tout le monde sur la terre. Dans toutes les nations de la terre, il y a les lois morales. Et nous allons lire maintenant dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 au verset 20, concernant Abraham, lorsqu'il a payé la dîme à Melchisédek. Nous sommes dans Genèse chapitre 14. Il est écrit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Nous voyons ici comment Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Mais, les remarques que nous pouvons déjà faire, en ce qui concerne la dîme que Abraham a donnée à Melchisédek, c'était 1. Abraham avait donné plutôt la dîme du butin. Ce n'était pas la dîme de ses biens. Ce que nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 7. Relevez, vous allez vérifier par la suite, Hébreux chapitre 7. À partir du premier verset. Oui, l'épître aux Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset. Il est écrit, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au fils de Dieu, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. La dîme du butin. Donc le butin de guerre, ce n'était pas la dîme de ses biens. Ça, c'est une première remarque. Et Abraham a donné la dîme une fois dans sa vie. Il n'a pas donné la dîme plusieurs fois. Ce sont des remarques. Et Abraham n'avait pas donné la dîme pour fuir la malédiction ou bien pour être béni. Pas du tout. Dans Genèse chapitre 13, relevez ce verset. Le verset 2, il est écrit. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Voilà. Donc, avant d'arriver dans Genèse chapitre 14, où Abraham a donné la dîme du butin à Melchisédek, la Bible nous dit qu'il était déjà très riche en or, en argent et en troupeau. Donc, il n'avait pas donné la dîme, contrairement à ce qu'on dit aux gens qu'il faut qu'ils donnent la dîme pour être bénis. Lorsqu'ils insistent tellement sur la dîme, En prenant par exemple l'exemple sur Abraham, Abraham n'avait pas donné la dîme pour être béni ou pour fuir la malédiction. Il était déjà très béni. Et également, la Bible nous dit que ce Melchisédek à qui Abraham avait donné la dîme, en fait, c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 7, que c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Abraham, en réalité, n'avait pas donné cette dîme à un homme, à Jésus-Christ lui-même personnellement. Donc, c'est déjà pour dire que ceux qui veulent prendre l'exemple sur Abraham doivent savoir ces choses. Un, Abraham n'avait pas donné la dîme pour fuir la malédiction, pour être béni, il était déjà très béni. Il avait donné la dîme au Seigneur Jésus-Christ en personne et non à un homme. Parce que Melchisédek, la Bible dit qu'il était sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Et c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce Melchisédek va venir au devant de lui avec le pain et le vin. C'est l'image de la Sainte Sainte. Donc, Abraham a goûté un peu la Sainte Sainte avant que Jésus ne vienne même mourir sur la croix. Ça, c'est le mystère de Dieu. Quand Jésus disait, par exemple, aux Juifs, Abraham a tressaillé de joie lorsqu'il a vu mon jour. Les Juifs lui ont dit, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham, quand ça? C'est ici que Jésus avait rencontré Abraham, sous la forme de Melchisédek. Et Abraham avait donné la dîme une seule fois dans sa vie, et ce n'était pas la dîme de ses biens, la dîme du butin de guerre, parce qu'il revenait de la guerre. Et nous allons continuer par rapport à la dîme de la maison du trésor. Oui, c'est le verset préféré de tous ceux qui prêchent et enseignent sur la dîme. Nous sommes dans Malachie, chapitre 3. Oui, verset 10, qui dit « Amenez toutes les dîmes dans la maison du trésor ». C'est le verset fétiche des pasteurs et autres prêtres qui insistent beaucoup sur la dîme. En fait, lorsque la Bible nous parle de la maison du trésor, dans cette portion des Saintes Écritures, lorsqu'on lit cette portion des Saintes Écritures de très près, en fait, ce verset s'adressait non pas au peuple, mais aux Lévites qui devaient, après avoir récupéré les dîmes des enfants d'Israël, devaient amener dans la maison du trésor la dîme de la dîme. Parce que ce sont eux qui devaient amener dans la maison du trésor la dîme de la dîme. Ce que nous allons lire dans Néhémie, relevé, Néhémie, chapitre 10, verset 38. C'est très très important de relever ce verset et après prendre votre temps. À partir de là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, j'ai bien dit Néhémie, chapitre 10, le verset 38, que je peux lire pour nous tous. Il est écrit, « Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. » Donc ce sont les Lévites sous la conduite d'un sacrificateur qui devait aller récupérer les dîmes et amener maintenant la dîme de la dîme dans la maison du trésor. S'il fallait ramener cela à notre contexte, c'est comme si Dieu se plaignait des pasteurs qui ont récupéré les dîmes mais qui n'ont pas donné la dîme de la dîme. Oui, en fait, d'ailleurs j'ai posé déjà la question la dernière fois que ceux qui récupèrent souvent les dîmes, à qui est-ce que eux ils versent la dîme de la dîme? Puisqu'il y avait la dîme de la dîme dans la Bible. Et je vous faisais également remarquer dans Galates chapitre 3, nous sommes dans le Nouveau Testament, épître de Paul aux Galates chapitre 3, le verset 10, où il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc beaucoup se mettent sous la malédiction sans le savoir. Lorsque vous voulez rentrer dans la loi, appliquer certaines choses qui concernent la loi, mais que vous n'êtes pas en mesure de tout pratiquer, Dieu dit que vous êtes sous la malédiction. Donc ceux qui veulent rentrer dans la loi pour pratiquer la loi de la dîme sont obligés de pratiquer tout ce qui était écrit exactement comme c'était écrit dans la loi. Sinon la Bible dit que nous sommes sous la malédiction. Contrairement à ce qu'on dit dans Malachie chapitre 3, que si un chrétien ne paye pas la dîme, il sera frappé par la malédiction. En fait, un chrétien ne peut pas être frappé par la malédiction parce qu'il n'a pas donné la dîme. Toujours dans Galates chapitre 3, cette fois-ci au verset 13, nous pouvons lire ceci. Galates chapitre 3, le verset 13, il est écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » La Bible est formelle. Christ a déjà racheté les chrétiens de la malédiction de la loi. Donc aucun chrétien ne peut être frappé par la malédiction parce qu'il n'a pas donné la dîme qui faisait partie de la loi. Bien au contraire, c'est cette personne qui veut pratiquer la dîme, mais qui n'est pas en mesure de tout pratiquer, qui se met sous la malédiction, même sans le savoir. Et je le disais que personne n'est béni parce qu'il a payé la dîme. Vous êtes béni parce que vous marchez dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, et non parce que vous avez payé la dîme. Et il y a beaucoup de gens que Dieu les bénit, même lorsqu'ils donnent la dîme, tout simplement parce que Dieu dit qu'il ne tient pas compte de tant d'ignorance. Et je faisais également remarquer que dans l'Ancien Testament, que ce soit la dîme et les offrandes, c'était beaucoup plus en nature. Ce n'était pas en argent. On a tout converti en argent de nos jours. Oui. Et maintenant, nous allons évoluer. Et qu'a dit Jésus sur la dîme? Qu'a dit Jésus sur la dîme? Oui, Jésus a parlé de la dîme. Et les rares versets qu'il y a dans le Nouveau Testament où Jésus a parlé de la dîme, nous pouvons lire dans Luc chapitre 18, à partir du verset 10 au verset 14. L'évangile de Luc chapitre 18, à partir du verset 10 au verset 14. Relevez et vous allez vérifier par la suite. J'ai bien dit Luc chapitre 18 à partir du verset 10 au verset 14. Je peux lire pour nous tous. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous montre ici une histoire que Jésus-Christ a racontée. Des hommes qui sont montés au temple pour prier. L'un se vantait de ne pas être comme les autres. Surtout qu'il était quelqu'un qui jeûnait deux fois par semaine et surtout qui donnait la dîme de tous ses revenus. Et de l'autre côté, il y avait le publicain qui se tapait la poitrine, qui disait tout simplement à Dieu, « Oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur. » Et Jésus a dit que c'est ce publicain qui a été exaucé. Celui qui se vantait d'être juste et surtout de jeûner deux fois par semaine et de donner même la dîme de tous ses revenus n'a pas été exaucé, n'a pas été justifié. Et nous sommes dans Luc, toujours cette fois-ci au chapitre 11. Oui, Luc chapitre 11, le verset 42. Notez, Luc chapitre 11, verset 42, il est écrit. C'est Jésus qui dit, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et et toutes les herbes. Je relis. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Oui, Jésus-Christ a prononcé la malédiction sur les pharisiens. C'était des gens qui payaient même la dîme de la rue, même la dîme des herbes. Donc vous qui pensez que vous payez même la dîme, vous ne faites même rien. Il y avait les gens qui payaient même la dîme de la rue, la dîme des herbes. Jésus les reprend en disant, vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, ce n'est pas la dîme, même dans l'époque de la loi, ce n'est pas la dîme qui était le plus, ce qui était le plus important, c'était la justice, l'amour de Dieu. La dîme était en seconde position. Et pourtant, dans beaucoup de milieux où on parle tellement de la dîme, on met la dîme ou l'argent toujours en première position. Quand vous donnez beaucoup d'argent, vous êtes apprécié, honoré, élevé, on vous voit. Mais quand vous n'avez pas de l'argent, on vous ignore. Quand vous donnez déjà de l'argent, même si vous êtes adultère, voleur, même si c'est l'argent de la prostitution, peu importe, pourvu que vous donniez de l'argent. C'est vrai, Jésus va finir en disant, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Et Jésus s'adressait ici aux pharisiens qui se considéraient comme des consacrés à la loi. Parce qu'eux, ils se vantaient d'être ceux qui pratiquaient la loi. Mais ils avaient oublié ce qui était le plus important. La dîme n'était pas le plus important. Et si on se base même sur ces versets, pour dire que Jésus-Christ n'a pas interdit que l'on paye la dîme, cela n'est même pas du tout surprenant. Jésus s'adressait ici aux pharisiens, il ne s'adressait pas aux chrétiens. Et les pharisiens, c'était ceux qui se considéraient comme les consacrés à la loi et ceux qui se vantaient de pratiquer la loi. Et Jésus les renvoyait à la loi dont ils prétendaient être les pratiquants, pour les montrer qu'en réalité, ils ne pratiquaient rien du tout. C'était des hypocrites. Et de deux, tant que Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix, la loi était toujours valable. À plusieurs reprises, il a renvoyé les gens à la loi. Quand le jeune homme riche va venir, par exemple, pour dire, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Ou bien pour hériter la vie éternelle? Il va lui dire, tu connais les commandements, il faut les pratiquer. Jésus l'a renvoyé dans les commandements, c'est normal. Tant que Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix, les hommes étaient toujours sous l'ancienne alliance. C'est pour cette raison que Jésus lui-même pouvait aller au temple et faire beaucoup de choses selon la loi, jusqu'à ce qu'il meure. Et à un lépreux, il va même lui dire, va donner l'offrande qui convient lorsque un lépreux a été purifié au sacrificateur dans le temple. Et c'est ce qui était écrit dans la loi. Parce que Jésus-Christ était toujours sous la loi jusqu'à ce qu'il dise à la croix que tout est accompli. Lorsque Jésus va crier à la croix que tout est accompli, les hommes vont désormais être transférés sous une nouvelle alliance qui n'avait plus rien à voir avec l'ancienne alliance. Et le dernier verset où Jésus-Christ a intervenu dans le Nouveau Testament concernant la dîme, nous sommes dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu 23, 23, il est écrit ceci. Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Nous voyons comment Jésus-Christ, une fois de plus, insiste que il était toujours, bien entendu, sous la loi. Pendant qu'il parlait, il s'adressait à ceux qui se vantaient de pratiquer la loi. Il dit, vous négligez ce qui est le plus important dans la loi. Cela veut dire que dans la loi, il y avait même certaines choses qui étaient plus importantes que l'argent, que la dîme. Aujourd'hui, on fait croire aux gens qu'ils peuvent être sauvés en donnant beaucoup d'argent. On fait croire aux gens que s'ils donnent beaucoup d'argent, Dieu va les bénir, même s'ils vivent dans le désordre, dans le péché, dans l'idolâtrie. C'est le mensonge. Il y a des choses plus importantes dans la parole de Dieu que le fait de donner de l'argent. La crainte de Dieu, marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans l'honnêteté et l'intégrité. Voilà les choses qui sont les plus importantes aux yeux de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes toujours dans Matthieu, chapitre 5. C'est pour vous amener à comprendre beaucoup de choses. Je me dois de le faire. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, le verset 17, qui dit ceci. C'est Jésus qui parle. Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Accomplir quoi? Et quelle loi? C'est la question qu'on doit se poser. Dans Luc, chapitre 18, relevez ce verset, chapitre 18, à partir du verset 18 au verset 20. Et Luc, chapitre 18, à partir du verset 18 au verset 20. Également, nous allons lire dans Matthieu chapitre 8, à partir du premier verset au verset 4. Ça, c'est pour vous montrer que Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, il a bien invité les gens à pratiquer la loi. Mais, comme je le disais tantôt, dans Jean chapitre 19, verset 30, lorsqu'il va mourir, il va dire « Tout est accompli ». En fait, Jésus, en se donnant en sacrifice, a accompli les lois cérémonielles et toutes les autres lois afin que les chrétiens, maintenant, ayant cru en lui, soient capables de pratiquer les lois morales. Je répète, Jésus-Christ, en se donnant à la croix, lorsqu'il va dire que tout est accompli, donc il a accompli sa mission principale qui était se donner en rançon, comme un agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nos péchés. Et ainsi, toute personne qui met sa confiance en lui n'a plus besoin de faire des sacrifices et les œuvres de la loi pour être sauvé. Étant sauvé, le chrétien doit tout simplement maintenant pratiquer les lois morales de Dieu. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler de la dîme et des offrandes, est-ce à dire que si la dîme faisait partie de la loi sociale d'Israël, est-ce à dire que le chrétien ne doit plus donner? Je n'ai jamais dit cela. Bien au contraire, dans le Nouveau Testament, nous allons voir que il y a tellement de versets qui encouragent la libéralité, mais qui est différent de ce qu'on présente souvent aux gens ou de ce qui était pratiqué dans la loi. Commençons par le commencement. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 8. Relevez ce verset et après vérifiez. Il est écrit. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Gloire à Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur avant de donner. Pour dire que quoi? Dieu veut d'abord le cœur de l'homme. Dieu veut d'abord sauver l'homme avant les biens des hommes. C'est pour dire que ce n'est pas normal que chaque fois vous vous empressez de donner de l'argent entre guillemets à Dieu alors que vous-même vous ne vous êtes pas donné à Dieu, alors que votre cœur n'est pas encore à Dieu. Vous deviez d'abord vous donner au Seigneur Jésus. Les biens matériels et financiers vont venir après. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on dit aux gens. Parfois on fait croire même aux gens qu'en donnant beaucoup d'argent, ils seront sauvés. Ils auront une bonne place au ciel parce qu'ils ont construit des temples. Ils ont donner l'argent aux hommes de Dieu, même s'ils demeurent dans leurs péchés, même s'ils ne se repentent pas, même s'ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus, cet argent qu'ils ont donné va acheter leur salut. C'est le mensonge du diable. Il faut d'abord vous donner au Seigneur. Sinon, sachez que même ce que vous donnez au Seigneur est une abomination, parce que en réalité, on ne peut rien donner à Dieu. Pour dire la vérité, on ne peut rien donner à Dieu. Dieu a tout. C'est pour cette raison qu'il veut que vous vous donniez d'abord à lui, votre cœur. Et ainsi, ce que vous allez donner maintenant, comme bien matériel ou financier, pour soutenir son œuvre, sera maintenant agréé comme un parfum d'une agréable odeur, parce que vous avez été déjà pardonné de vos péchés et surtout purifié et sanctifié. Parce que tant que quelqu'un ne s'est pas encore repenti de ses péchés, cette personne n'est pas toujours pure aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est très très saint. Et ce n'est que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus que nos péchés sont pardonnés. Et Dieu nous voit désormais comme des saints, des justes, à cause de Jésus qui a porté nos péchés. Et tout ce que nous pouvons lui donner maintenant en signe de reconnaissance peut être agréé par Dieu. Par exemple, dans Deutéronome, vous pouvez relever également, Deutéronome chapitre 23, le verset 18, il est écrit ceci. Oui, j'ai dit bien, Deutéronome chapitre 23, verset 18. Il est écrit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée. Hein? On n'apportait pas dans la maison de Dieu n'importe quel genre d'argent ou de biens. Pour dire que quoi? Dieu veut même que l'origine des biens que l'on lui donne soit pure. Parce que beaucoup pensent qu'ils peuvent blanchir leur argent dans la maison de Dieu, entre guillemets. Beaucoup pensent qu'ils peuvent blanchir les agents en soutenant l'œuvre de Dieu, entre guillemets, ou en donnant à certains hommes de Dieu. Non. Si l'argent que vous gagnez n'est pas gagné honnêtement, sachez que Dieu n'agréera pas. Parce que Dieu est très saint et juste, et il veut que ce qu'on lui donne soit également quelque chose qui a une bonne provenance, une source propre, pure. Malheureusement, parfois, même si c'est une prostituée, même si c'est un braqueur, on n'a pas tellement le temps de savoir l'origine de son argent. Ce qu'on veut, c'est l'argent. Un point, c'est tout. Non. Cela ne vient pas de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 20, nous pouvons lire ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20. Nous sommes en train de voir maintenant le donner et la libéralité selon le Nouveau Testament. Je lis ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que vous, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La Bible dit clairement ici que la personne qui a été rachetée par le Seigneur Jésus-Christ ne s'appartient plus lui-même, il appartient à cette personne qui l'a racheté. C'est pour dire que quoi? Chaque chrétien qui a vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui est né de Dieu, né de nouveau, appartient à Jésus. Et s'il appartient à Jésus, tous ses biens également appartiennent au Seigneur Jésus. Donc il doit tout simplement gérer cela selon que le Seigneur va lui demander de le faire. Parce que quand le Seigneur vous rachète, il vous rachète avec vos biens. Vous ne dites plus à Jésus, voici ta part, voici ma part. Vous êtes là tout simplement comme un intendant, comme un gérant. Et lorsque le Seigneur vous dit, après avoir reçu votre salaire, il vous dit, gérez cet argent de cette façon-ci. Et c'est ainsi que vous allez le faire. Parce que vous êtes là tout simplement comme un gérant. Tout ce que vous avez lui appartient. Comme vous l'appartenez également depuis le jour que vous avez cru en lui. Depuis le jour que vous l'avez accepté comme Seigneur et sauveur. Il vous a racheté entièrement avec votre argent et tous vos biens. Nous sommes toujours dans l'épître de Paul aux Corinthiens, cette fois-ci la deuxième épître, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, où il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, il est écrit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. La Bible nous dit clairement ici que tous les chrétiens vont comparaître devant le tribunal de Christ, non pas pour être jugés et jetés dans les temps de feu comme les pécheurs qui ne sont pas repentis, comme les méchants et les agents de Satan, mais juste pour rendre compte de la manière dont ils ont géré les biens que le Seigneur les a donnés sur la terre, dont un jour les chrétiens vont rendre compte de tout ce que le Seigneur les a donné de gérer sur la terre. Les chrétiens sont tout simplement des intendants et des gérants du Seigneur Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 21, nous pouvons lire ceci. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 21, Jésus dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et là où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ ici encourage ses disciples à ne pas amasser des trésors sur la terre. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir pour ambition d'amasser des trésors sur la terre. Bien au contraire, il doit amasser que dans le ciel. Et comment est-ce qu'on amasse ces trésors au ciel? C'est en gérant les biens que le Seigneur nous a donnés selon lui. Et tout ce qu'on investit selon Dieu dans son œuvre, dans l'avancement de son royaume, selon Dieu, tout cela est amassé au ciel. Lorsqu'on donne aux nécessiteux, c'est une façon également d'amasser au ciel. C'est pour dire que ce n'est pas normal que les églises aient des comptes bancaires où sommeillent les millions et les milliards, alors que tout autour, à côté, il y a les chrétiens qui meurent de faim. Jésus dit qu'un jour les voleurs vont percer, ils vont voler. C'est pour dire que quoi? Tout ce que les hommes amassent sur cette terre vont être perdus à jamais. Mais ceux qui ont amassé, même étant sur la terre, au ciel, un jour vont retrouver cela au ciel. Lorsqu'ils ont investi, selon la parole de Dieu, vont retrouver tout ce qu'ils avaient investi sur la terre au ciel. En passant, cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Un chrétien peut bien ouvrir un compte bancaire. Si vous avez de l'argent et si vous ne savez pas exactement quoi faire avec cet argent, vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Juste en attendant que le Seigneur vous dise ce que vous allez faire avec cet argent. Mais pas dans l'intention d'amasser des millions et des milliards pour un jour fêter et dire que je suis au centième million et au dixième milliard comme on voit dans le monde. Non, pas dans ce but pour se vanter, se glorifier, non. Une assemblée peut également ouvrir un compte bancaire, tout simplement si elle a une forte somme d'argent et qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire exactement avec cet argent. Mais pas pour amasser, 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 alors que les chrétiens sont là en train de mourir de faim, alors que les orphelins, les veuves sont là, les enfants ne vont pas à l'école, les gens meurent de faim, les gens ont des problèmes de 100 000 ou bien même de 10 000, de 5 000, alors qu'il y a des millions, des milliards dans les banques, ce n'est pas normal. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Nous sommes en train de voir le donner et la libéralité selon le Nouveau Testament. Donc même si le chrétien n'est plus tenu de donner la dîme, il y a beaucoup de versets qui l'interpellent à donner dans le Nouveau Testament, mais pas selon la loi, ou bien selon ce qu'on dit aux gens, par exemple, que si vous ne donnez pas la dîme, vous serez frappé par la malédiction. Et les gens maintenant, en fuyant la malédiction, donne même à contre-cœur. Ce n'est pas normal. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, où il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne, verset 7, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible dit clairement que chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Malheureusement, dans beaucoup de milieux religieux, on contraint les gens à donner même lorsqu'ils n'en ont pas du tout envie de le faire. On les manipule. Parfois, les gens donnent et après, ils regrettent. Parce que dans les programmes, ils n'avaient pas prévu. Dans les plannings, ils n'avaient pas prévu donner. À force de subir des pressions et des menaces, ils donnent même. Et après, ils rentrent, ils commencent à misérer ou bien à souffrir. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous donnez de cette façon, Dieu n'agrée pas. Parce que la Bible est claire et formelle. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, sans tristesse. Et la Bible va également dire, celui qui sème peu moissonnera peu. Pour dire que quoi? La manière dont vous sèmez, vous allez également récolter. La Bible ne dit pas dans le Nouveau Testament de donner la dîme qui était le 1 dixième. Donc si vous sèmez, par exemple, le 5 dixième, vous allez récolter le 5 dixième. Il n'y a pas de dîme. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Vous sémez peu, vous moissonnez peu. Vous sémez beaucoup, vous moissonnez beaucoup. Tout simplement, sans contrainte et sans tristesse. Et nous allons rester dans 2 Corinthiens, cette fois-ci, chapitre 8, le verset 13, où il est écrit, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 13. Ou bien à partir du verset 12, il est écrit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. » Oui, la Bible dit clairement que la bonne volonté, c'est bien lorsqu'on a de quoi donner. Quand Dieu demande que l'on soutienne son œuvre, ou bien que l'on soutienne les autres, ce n'est pas pour s'exposer à la détresse. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un donne et après se retrouver dans les problèmes. Nous voyons dans les familles beaucoup de gens qui ont porté les dernières économies qu'ils avaient pour aller donner à l'église ou au pasteur et rentrer misérés. Beaucoup sont réduits à zéro parce qu'ils ont porté les miettes qu'ils avaient pour aller à l'église, pour aller donner au pasteur ou à un autre, parce qu'on les a manipulés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous donnez de cette façon, c'est même la malédiction. Vous ne devez pas vous exposer à la détresse parce que vous voulez donner. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous avons lu jusqu'au verset 13. Et la fin du verset 13 va dire quoi? Bien, le verset 13 va dire ceci. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu, soulignez bien, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement aux autres. La Bible est en train de parler ici même du superflu, pour dire que quoi? Normalement, Dieu encourage les gens à donner lorsqu'ils ont déjà résolu les problèmes pressants. Donc lorsque vous recevez votre salaire, vous calculez les dépenses que vous allez faire dans la famille. Concernant les enfants, la nourriture, le loyer, l'électricité et autres, c'est le superflu maintenant que vous pouvez mettre de côté. C'est-à-dire, ce qui ne sera pas utilisé. Et c'est dans ce superflu que vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Ou soutenir le ministère, un vrai ministère d'un vrai homme de Dieu. J'y reviendrai en détail. Le superflu. Retenez très bien le superflu. Donc ce n'est pas normal que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Et même le miette qui devrait vous permettre de survivre pour quelques jours, vous porter pour aller, entre guillemets, à l'église. Ce n'est pas la volonté de Dieu, détrompez-vous. Même si on vous dit qu'en le faisant, vous serez béni, c'est le mensonge du diable. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 2. Où il est écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Nous sommes en train de voir les principes du donner selon le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Que chacun de vous mette à part celui, que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Dieu demande aux gens que chacun donne selon sa prospérité. C'est pour dire que quoi? Il y aura des gens qui seront capables de donner même des millions. Et ça n'enlèvera rien sur les richesses. Et une autre personne ne sera capable de donner que 100 francs. Mais malheureusement, dans beaucoup de systèmes religieux, on dit nous ne voulons plus de pièces, surtout les pièces jaunes. Et c'est ainsi que ceux qui viennent avec les grosses enveloppes et les billets sont acclamés. Donc chacun doit donner selon sa prospérité. Si quelqu'un est capable de donner 1 million et que ça n'enlève rien sur sa richesse, c'est son problème, gloire à Dieu. Mais si une autre personne n'est capable de donner que 100 francs, gloire à Dieu également. C'est ainsi que beaucoup sont frustrés dans le système religieux parce que lorsqu'il vient avec les miettes, on se moque d'eux. Et ceux qui ont donné des grosses enveloppes, on les montre publiquement, on les acclame, et ceux qui n'ont rien sont frustrés. Ils se disent, mais on ne peut pas m'acclamer, puisque de toutes les façons, je n'ai rien. Les 100 francs que j'ai, ou même les 500 et 1000 francs, ça ne vaut rien. Voilà les gens qui donnent les 100 000 et 1 million. Et c'est ainsi que les gens sont frustrés. En réalité, vous devez même sortir de ces genres de milieux. Parce que ce n'est pas Dieu qui est célébré, c'est l'argent qui est déjà célébré. Et Jésus a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon ici, c'est l'argent. Lorsque c'est l'argent qui est célébré dans un système religieux, ça veut dire que Dieu est mis de côté. Dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 17 et 18. 1 Timothée chapitre 6, les versets 17 et 18. Nous pouvons lire ceci, 1 Timothée chapitre 6. Verset 17 et 18. Je rappelle que nous sommes toujours en train de voir le donner la libéralité selon le Nouveau Testament. Il est écrit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-les de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Amen. La Bible est claire. La Bible encourage les gens à être riches en bonnes œuvres, la libéralité, la générosité. Donc, Dieu vous invite à être généreux envers les nécessiteux et envers son œuvre. Sans contrainte, bien sûr. Dans Hébreux chapitre 13, verset 16, Hébreux chapitre 13, le verset 16, à partir de ce verset, vous comprenez déjà avec moi que même si nous ne devons plus pratiquer la dîme, nous devons pratiquer la libéralité, nous devons être généreux. Je lis, il est écrit ceci, Hébreux 13, verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc Dieu prend plaisir à la libéralité et la bienfaisance. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. Il est écrit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappelant les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Et si nous restons d'abord dans le contexte, l'apôtre Paul s'adressait ici aux anciens, aux dirigeants. Il les disait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour dire que quoi? Les dirigeants, les pasteurs, qui sont en même temps comme des parents, des papas, doivent être ceux qui donnent d'abord. Mais en général, beaucoup sont seulement là pour recevoir, avaler, sans rien donner aux autres. C'est à eux d'abord que cette parole a été adressée, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ensuite, ce verset peut s'étendre à tous les chrétiens, à savoir que Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, soyez beaucoup plus prompts à donner qu'à recevoir. Surtout les pasteurs et les prêtres. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour. Nous allons continuer prochainement, toujours sur cette même lancée, voir comment soutenir l'œuvre de Dieu ou bien le ministère d'un vrai serviteur de Dieu à la lumière des Saintes Écritures, bien sûr. Mais avant de nous séparer, je vais dire quelque chose, j'y reviendrai en détail, par exemple concernant les actions de grâce. Lorsque nous allons lire à la lumière des Saintes Écritures, aujourd'hui lorsqu'on parle des actions de grâce, tout tourne toujours autour de l'argent. Alors que dans la Bible, quand on parlait des actions de grâce, c'était remerciement. Parce que action de grâce vient du mot charis, qui veut dire tout simplement remerciement. Et ça n'avait absolument rien à voir avec l'argent. C'était tout simplement lié à au fait de dire merci à Dieu par la prière, parce qu'il nous a sauvés et pour ses bienfaits dans nos vies. Mais on a fait croire aux gens que quand on parle d'action de grâce, c'est toujours par rapport à l'argent qu'on doit donner à un prêtre ou à un pasteur de Dieu. Non. J'y reviendrai en détail, le Seigneur le permettant, bien entendu. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous et que toute la gloire, les honneurs, les actions de grâce reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir. L'alpha et l'oméga, le prince de paix, le tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, notre rédempteur, qui revient très bientôt pour nous chercher. À lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête?
Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. Reçois mon offrande, reçois mon cœur, reçois ma vie. Jésus, 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 ô mon roi, reçois mon offrande. Toi, Seigneur, je te donne ma vie, mon cœur. Tout te revient. Tout te revient. Reçois, Seigneur, l'offrande de mes lèvres, de ma bouche, de mon cœur.